Je suis né dans un tout petit hameau et pourtant il y avait une fanfare qui s'appelait la clique du village. La musique est un art et souvent une passion qui tient beaucoup de place dans la vie de bien des gens. Dans toutes les vogues, kermesses et réjouissances populaires, il y a de la musique et elle accompagne toujours les célébrations, les réussites et bien sûr les victoires militaires. Dans tous les temples et palais datant d'anciennes civilisations, les archéologues trouvent des fresques sur lesquelles figurent des joueurs d'instruments célébrant leur divinité ou leur souverain pour une raison ou pour une autre. Par exemple, la grande sculpture murale du palais de Ninive, ancienne capitale de l'Empire assyrien, représente des musiciens fêtant le retour victorieux du roi Assurbanipal. La musique est moralement neutre dans le sens qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Et tout comme un magnifique coucher de soleil plaît aux yeux, chacun peut trouver un genre de musique qui soit agréable à ses oreilles. C'est aussi un support idéal pour adorer Dieu et Jésus-Christ. Le roi David était un musicien accompli et l'apôtre Paul encourage les croyants à chanter à sa gloire quand il écrit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. » Cependant, la musique peut aussi être utilisée à mauvais escient, jouer le rôle et avoir le même effet que l'alcool ou une drogue. Curieusement, dans les textes sacrés, la première mention d'instruments de musique remonte à un certain Joubal, arrière-arrière-petit-fils de Caïn, un aïeul dont nul ne pourrait être fier. Le texte dit que Joubal est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Les personnes mal intentionnées peuvent se servir de la musique pour manipuler les émotions et passer outre les défenses naturelles de quelqu'un, que ce soit ses valeurs morales ou son instinct de préservation. Ce n'est pas pour rien que tous les régiments du monde défilent accompagnés d'une fanfare. Non seulement la musique style militaire aide à marcher au pas cadencé, mais elle poussera aussi une troupe de soldats à foncer tête baissée contre l'ennemi et à se faire massacrer. Je continue à lire dans le chapitre 3 du livre de Daniel. Un héros proclama à voix forte, « À vous, peuple, nation et homme de toute langue, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait ériger, et vous l'adorerez. » Versets 4 et 5. Les auteurs anciens, les inscriptions, les fresques et les représentations murales mises à jour par les archéologues attestent le goût prononcé des Babyloniens pour la musique instrumentale, qui est du reste un élément important de toutes les cérémonies religieuses et politiques de l'Antiquité, ainsi que de la vie de tous les peuples, comme je l'ai déjà noté. Parmi les instruments de musique cités, la cithare, la sambuque, le psaltérion et la cornemuse sont les seuls mots qui, dans Daniel, sont d'origine grecque. C'est d'ailleurs une des raisons qui a conduit ceux qui adoptent une attitude critique à l'égard des textes sacrés à dire que ce livre date du IIe siècle avant Jésus-Christ. Car, à cette époque, la Palestine était sous contrôle de la dynastie des Séleucides qui était hellénistique, c'est-à-dire de culture grecque. Soit dit en passant que parmi les souverains de cette dynastie se trouve l'ignoble Antiochus IV Épiphane, l'auteur de l'abomination de la profanation dont parle Daniel. Cependant, l'origine grecque des quatre instruments cités n'est pas surprenante pour plusieurs raisons. Premièrement, dans l'Antiquité, le peuple grec était le peuple musicien par excellence. En second lieu, les colonies grecques établies en Asie mineure, c'est-à-dire La Turquie actuelle entretenait déjà des relations étroites avec l'Empire assyrien et ses rois avaient tous des mercenaires grecs à leur solde. Ces échanges continuèrent à l'époque de Nabucodonosor qui avait dans son armée un corps expéditionnaire grec commandé par le frère du célèbre poète grec Alcée, compositeur de chants politiques et guerriers. De plus, Ézéchiel appelle Babylone une ville de marchands à cause de la présence des produits de l'industrie et de l'art grec qui étaient parvenus très tôt par l'intermédiaire des Phéniciens, des Syriens et des Lydiens. J'ai déjà parlé de la Lydie qui se trouvait à l'ouest de la Turquie actuelle parce que son célèbre richissime roi Crésus fut battu par Cyrus le Perse. La Lydie donc avait des artistes grecs à son service et avait des relations avec l'Empire assyrien car elle en était vassale. Tous ces détails fastidieux, j'en conviens, expliquent facilement pourquoi des instruments de musique grecs étaient utilisés à Babylone sous le roi Nabucodonosor. Tout ça aussi pour rappeler que les écritures sont étroitement imbriquées dans l'histoire humaine, l'art et les échanges commerciaux entre nations et qu'il faut étudier les textes sacrés dans leur contexte. Dans son arrogance sans limite, le potentat babylonien s'est donc fait construire une statue d'or tape à l'œil qui scintille 2000 feux. Comme il l'a placée dans une vallée, elle frappe les regards de très loin. Cette vision surréelle, accompagnée de l'orchestre philharmonique de Babylone au milieu de la foule bigarrée des plus hautes personnalités du royaume, est un spectacle sublime qui va beaucoup jouer sur les émotions des participants. Le héros a proclamé à voix forte « Au moment où vous entendrez le son des instruments, vous vous prosternerez devant la statue d'or ». La musique était un signal, mais son rythme entraînant et sa puissance avaient également pour but de pousser cette foule à rendre un culte à l'idole qui, dois-je le rappeler, représente la puissance de l'Empire et surtout celle de son souverain, le seul, l'unique, le grand, l'immense Nabucodonosor. Le roi de Babylone a organisé cette immense kermesse afin de se faire reconnaître par les peuples, nations et hommes de toute langue qui constituent son empire. En effet, les officiels convoqués représentaient toutes ces populations qui sont désignées en tant qu'entité politique ou linguistique. Nabucodonosor était un petit mesquin dans son genre, parce qu'il avait apparemment omis d'informer ses braves administrateurs de la raison de leur convocation à Babylone. Mais maintenant que le héros du roi a parlé, ils sont au courant et ils ont grand intérêt à coopérer. Ce despote ne fait rien à demi-mesure. Il exige une soumission totale, entière et absolue à son autorité. Les officiels devaient non seulement s'incliner bien bas devant la statue, mais aussi l'adorer, ce qui lui confère une signification à la fois politique et religieuse. Il s'agit donc bien d'un acte d'idolâtrie pure. Comme aucun dieu particulier n'est affilié à cette statue, c'est probablement parce que le roi voulait instituer une nouvelle religion ayant cette image comme point de mire. En d'autres mots, et même s'il ne le dit pas explicitement, Nabucodonosor a évacué Marduk et ses compères, les autres divinités babyloniennes, pour les remplacer par lui-même. C'est l'aboutissement de la logique de l'idolâtrie. En effet, comme l'idole est au service de l'adorateur, les deux finissent éventuellement par se confondre et l'idolâtre devient son propre dieu. Nabucodonosor a fait cette démarche. Il veut un royaume unifié avec un seul souverain et une seule religion, et c'est lui qui sera à la fois le chef d'État, le grand prêtre et la divinité qu'on adore. Le roi de Babylone dépoussière et remet à l'ordre de ce grand jour le culte impérial tel qu'il a toujours existé depuis la nuit des temps et depuis les toutes premières dynasties humaines issues des fils de Noé. Je continue le texte. Celui qui refusera de se prosterner devant la statue et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. verset 6. Cet avertissement a de quoi refroidir. La fournaise brûlait déjà pour bien montrer que Nabuchodonosor ne plaisantait pas et que le châtiment suivrait immédiatement toute désobéissance. Ce genre de supplice était courant chez les Chaldéens. Je continue. C'est pourquoi, au moment où tous les gens entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, ces hommes de tous les peuples, de toutes nations et de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor avait fait ériger. Verset 7. Comme un seul homme, cette masse de dignitaires se met à plat ventre devant la statue. De cette manière, les officiels, au nom des peuples qu'ils représentaient, reconnaissaient et acceptaient l'autorité politique et religieuse de Nabuchodonosor. Mais ce n'était jamais qu'une forme extérieure d'adoration, un rite qui faisait partie du métier d'administrateur des affaires de l'État. Cette courbette ne demandait aucun sacrifice à des païens à qui rien n'interdisait de reconnaître et d'adorer d'autres dieux que les leurs propres. C'est comme dans l'hindouisme qui compte au moins 330 millions de divinités. En ajouter d'autres n'est pas une difficulté. Il n'en était pas ainsi des Hébreux dont la religion excluait tout hommage adressé à un autre dieu que l'Éternel. Cette obligation, sous peine de mort, d'adorer la statue plaquée or, pose donc un gros problème de conscience aux trois amis de Daniel parce que, d'une part, ce sont les seuls hauts dignitaires de race juive présents à cette grande kermesse et d'autre part, ils ont décidé de rester fidèles à leur Dieu. En effet, ne pas se prosterner et adorer une image est l'un des 10 commandements de Moïse. Obéir à l'ordre du roi, c'est donc transgresser la loi de Dieu. Certes, ils auraient pu se dire « on va courber les chines », mais notre cœur n'y sera pas. Ce genre de compromis est courant et dans tous les domaines de la vie. Je continue. Sur ces entrefaites, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Juifs. Verset 8. Les astrologues sont mentionnés parce qu'ils étaient les porte-parole de tous les mages et sages du royaume. S'ils avaient encore la tête sur leurs épaules, ils le devaient à Daniel et à ses trois amis qui leur avaient épargné l'échafaud en obtenant de l'Éternel les renseignements que Nabuchodonosor exigeait d'eux, en l'occurrence, le contenu et la signification de son premier rêve. Et pour les en remercier, ils vont les trahir. Le mot traduit par « porter des accusations » est très violent car il signifie « déchirer en morceaux ». Cette dénonciation était sévère avec l'intention évidente de détruire les accusés. Cet incident montre que l'origine et la position des 4 Hébreux avaient rendu jaloux les sages de Babylone, qu'ils avaient la haine au ventre et qu'ils étaient décidés à se débarrasser des 4 amis. Je continue. Ils s'adressèrent au roi Nabuchodonosor et lui dirent « Que le roi vive éternellement, ô roi !» Sa Majesté a promulgué un édit ordonnant que tout homme se prosterne et adore la statue d'or dès qu'il entendrait le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Cet édit précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. Versets 9 à 11. C'est la 3e fois que la même liste d'instruments est donnée et que l'ordre de se prosterner et d'adorer la statue est mentionné. Cette introduction est faite de manière formelle et selon le protocole en vigueur de façon à ce que l'accusation qui va suivre soit prise en compte. Ces astrologues sont sûrs qu'en agissant ainsi, ils vont avoir gain de cause. Je continue. Or, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi, ô roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Verset 12. Habituellement, même les membres les plus brillants des peuples conquis occupaient une fonction administrative subalterne, mais n'était pas élevé au plus haut poste de l'État. C'est ce qui avait tellement rendu jaloux les sages, qui, étant de pure race babylonienne, se sentaient humiliés. Il présente l'incident en utilisant trois négations. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi, ils n'adorent pas et ne se prosternent pas, ce qui va obliger le roi à réagir. Je continue. Alors, Nabuchodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. On les amena donc devant le roi. Verset 13. Nabuchodonosor avait la réputation de s'emporter facilement. Alors on pouvait s'y attendre, et à l'instar d'un taureau dans l'arène, il voit rouge. On traîne donc les coupables devant leur juge. Je continue. Celui-ci prit la parole et leur demanda. Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, êtes-vous prêts? Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Versets 14 et 15. Le roi leur donne une seconde chance de lui jurer fidélité en se courbant devant la statue qui le représente. Il demande une preuve de leur soumission totale et entière à son autorité. Pour qu'ils soient bien au clair des conséquences de leur refus, il leur rappelle que la fournaise surchauffée les attend. La question est quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Sous-entendu, aucun, montre que Nabuchodonosor prétend détenir l'autorité suprême autant dans le domaine religieux que politique. Il met au défi tous les dieux du ciel et d'ailleurs de l'empêcher d'agir comme il l'entend. Cette affaire devient maintenant un conflit entre l'Éternel et le roi de Babylone. Ce n'est pas la première fois qu'un potentat méprise le Dieu des Hébreux. Le roi assyrien Sennachérib, en la personne de son aide-de-camp, avait déjà affiché une telle arrogance. Je résume le passage. « Vous direz à Ézéchias, roi de Juda, « Ne te laisse pas tromper par ton Dieu en qui tu te confies s'il te dit que Jérusalem ne tombera pas entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as toi-même appris comment les rois d'Assyrie ont traité tous les pays, comment ils les ont voués à la destruction complète. Crois-tu que toi seul tu y échapperais? Les dieux de ces pays ont-ils délivré ces gens ?» Fin de citation. La suite du texte nous apprend que l'ange de l'Éternel intervint dans le camp assyrien et y fit périr 185 000 hommes. Le lendemain matin, au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. Alors, Sennachérib, roi d'Assyrie, leva le camp et repartit pour Ninive, où il resta. Plus tard, ce roi a fini assassiné par deux de ses fils. Tout comme Sennachérib, l'orgueil démesuré de Nabuchodonosor va se retourner contre lui et le mettre dans un grand embarras. Le vrai Dieu va prouver qu'il est capable de délivrer les siens, tout comme il avait su révéler à Daniel un songe et sa signification. Je continue le texte. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Verset 16. C'est la réponse à la question méprisante du roi, quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Les trois amis persistent et signent. Ils ne cherchent pas à être irrespectueux, mais ils n'ont rien à ajouter, aucune défense à présenter et aucune intention de revenir sur leur premier refus de se prosterner devant la statue. Ils continuent à croire et à proclamer que l'Éternel est le seul Dieu vrai et vivant, et ils ont placé leur vie entre ses mains. Je continue. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Versets 17 et 18. Bien que ces jeunes Hébreux soient employés par Nabuchodonosor, ils sont au service de l'Éternel, une puissance bien supérieure. Et même s'ils ne connaissent pas les desseins de leur Dieu à leur égard, ils savent très bien où se situe leur devoir. En effet, les deux premiers des 10 commandements qui interdisent toute forme d'idolâtrie s'appliquent parfaitement à leur situation. Je les lis. « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Fin de citation. Les trois amis ont décidé qu'il est plus important d'obéir à Dieu que de sauver leur peau. Et si l'Éternel choisit de ne pas les délivrer, peu importe, de toute manière ils n'obéiront pas au roi, et ils obéiront à la loi de Dieu. Ils refusent donc de suivre les directives du roi de Babylone et de se prosterner devant son image, même si ça va leur coûter la vie. Leur réponse est franche, directe et ferme, mais exempte de tout fanatisme. Il a fallu beaucoup de courage à ces trois amis pour adopter une telle position, car il est quasi certain qu'ils pensent que leur dernière heure vient de sonner. En effet, il faudra un miracle tout à fait extraordinaire pour qu'ils ne périssent pas une fois jetés dans la fournaise, qui devait être aussi ardente que le cratère d'un volcan en éruption. Et moi dans tout ça ? Je ne peux pas empêcher de me demander ce que j'aurais fait à leur place. Qu'est-ce qu'une petite courbette, après tout ? Mais ce n'était pas pour eux. Ils avaient des principes de vie et ils s'y tenaient. Quel exemple !